chers amis, chères familles, et bien d'autres ici présents, on va se lever, stand ovation, pour accueillir comme ça l'auteur, celui-là même qui nous réunit ici cet après-midi. Il s'appelle Hamid Yassine Moutouili. Il va certainement vous en dire un peu plus dès qu'il se passe. Mais pour le moment, on va se lever pour accueillir comme ça l'auteur. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Merci de s'asseoir. Voilà. On va s'asseoir. Madame, Monsieur, nous allons encore vous présenter nos sincères regrets pour le début tardif de cette dédicace. Vous le savez, comme je l'ai dit, l'on propose et le Seigneur en dispose. Alors, s'il a décidé, si le Tout-Puissant a décidé que nous puissions démarrer à cette heure-ci, lui seul, il sait pourquoi. C'est pour ça que nous devons lui rendre grâce et glorifier le Tout-Puissant. Je rappelle donc rapidement le programme de cette dédicace. Tout à l'heure, donc, ce sera les mots d'ouverture, si vous voulez, sans doute, avec la présence directrice générale des éditions La Voix du Livre. Par la suite, ce sera le mot de bienvenue de la représentante de Madame la directrice générale de Subdeco, en la personne de Monsieur Danga, qui représente donc Madame Golodo Claire, qui serait excusée, mais nous accueillons ici son représentant. Par la suite, ce sera la présentation avec l'homme, ou alors la star du jour. Ce sera donc venu, droite pour Hamid Yassine Moutouili, l'auteur du livre. C'est quel livre? Je vois tout le monde me regarde. Le bruit des mots, si vous voulez, sans doute. Il sera donc là pour décortiquer cela et surtout donner le contexte, la motivation et surtout le message central de son livre. L'intervention du critique d'art avec Madame Fatima qui est déjà... elle est parmi nous. Est-ce qu'elle est parmi nous? Voilà. Elle est déjà parmi nous aussi, Madame Fatima. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Ok, par la suite, ce sera le débat ouvert au public. Vous allez poser quelques questions et l'auteur est là. Il répondra à vos questions. Puis, ce sera par la suite l'interview avec les médias, avec l'auteur. On va interviewer l'auteur, PDG de La Voix du Livre, et certainement le représentant de Madame la directrice générale de Subdeco qui nous accueille. Voilà. Et puis, par la suite, ce sera des rencontres individuelles avec l'auteur, la signature des ouvrages, la vente des livres. Il est là, le livre, vous pouvez déjà le témoigner. Certains voudront certainement l'acheter et le faire dédicacer directement par l'auteur. À la fin, ce sera une belle photo de famille et cocktail et réseautage, si vous voulez sans doute. Voilà donc présenté, madame, monsieur, chers amis, chères familles, le programme détaillé de cette dédicace que je pourrais dire lancée ouvertement. Et on commence tout de suite sans plus entendre avec le mot d'ouverture. On va donner la parole à madame la PDG des éditions La Voix du Livre pour que, et surtout sa vision éditoriale. La parole à l'éditrice également, je crois que tout ça c'est dans une même assiette. Elle aura tout simplement le privilège de décortiquer et surtout de donner la part d'elle de ce qu'elle a dans le ventre et surtout ce que c'est réellement la voix du livre. Nadine Fouidieu a la parole.
Merci, merci pour le privilège, Monsieur Samba. Alors, mesdames, messieurs, chères directrices, ici représentées, nous vous disons merci. Merci pour le privilège que vous nous accordez de pouvoir partager cet événement littéraire qui nous porte à cœur dans votre établissement. Merci à tous les passionnés de la littérature qui sont là. Alors, pour ne pas perdre le temps, parce que nous tenons d'abord à vous dire, à vous présenter toutes nos excuses pour le retard. Nous sommes déjà à presque 2 heures, donc pour être très bref, je dirais juste que les éditions La Voix du Livre, c'est une maison d'édition qui existe depuis 3 ans aujourd'hui et qui a eu le privilège d'organiser des dédicaces, 3 dédicaces aux États-Unis, 2 dédicaces au Cameroun, 1 dédicace au Brésil. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner Monsieur Hyacinthe qui a eu ce courage-là d'intégrer le programme 21 jours pour publier son livre. Parce qu'il faut noter que le projet a commencé en décembre. Et il a tenu. C'est un challenge que nous avons eu. Et une seule personne a pu tenir ce challenge jusqu'à présent, qui est lui. Est-ce qu'on peut d'abord un peu applaudir pour lui? Il a fonctionné comme les Américains. C'est-à-dire, nous avons eu ces expériences-là avec les Américains. C'est-à-dire, des gens qui viennent pour publier un livre en 3 semaines. Et en 3 semaines, ils l'ont déjà fait. Parfois, il y a des Camerounais qui ont déjà fait 3 ans, 2 ans. On n'a pas toujours publié. Donc, il a tenu ce challenge et vraiment, nous voudrons dire merci. Alors, les éditions La Voix du Livre, ce que nous faisons, c'est la publication des œuvres, pas seulement la publication à la traditionnelle. Notre apport à cette période ou bien à cette ère au Cameroun, c'est de publier des livres et de donner plus de visibilité à l'auteur. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs un site web et nous avons 9 plateformes numériques pour donner plus la parole à l'auteur, donner plus de vie au livre, parce que nous avons constaté qu'une fois quand le livre est sorti, quand on imprime un stock, on donne à l'auteur, il peut aller ça à la maison, la moisissure arrive là. Il n'y a pas de différence entre le manuscrit et le livre publié. Donc nous avons préféré que dorénavant, il faut que le livre ait plus de vie, que la durée du livre soit plus longue et que le livre ait plus d'impact, parce qu'il faut noter que la force d'un livre dépend de ses lecteurs. Par exemple, si nous n'avons pas fait la dédicace aujourd'hui, on n'aura pas plus de 50 personnes qui connaissent que le livre existe. Donc c'est pour cela que nous avons lancé l'édition La Voix du Livre, dans le but d'inspirer, éduquer et transformer plusieurs au travers des livres. C'est pourquoi, en majorité, nous publions des livres dont les thématiques portent sur les challenges de la société. Ça peut être des revues scientifiques également, ça peut être des essais qui apportent des solutions à des problèmes de la société. C'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Et nous proposons 3 types de contrats généralement. En majorité pour les travailleurs, nous sommes catégoriques à ce qu'ils prennent des contrats à compte d'éditeur. C'est-à-dire des contrats où l'auteur assume les frais d'édition dans sa totalité. Et nous proposons également les contrats mixtes, qui sont des contrats à charge partagée. C'est-à-dire la maison d'édition couvre les frais de publication à 50%, l'auteur également couvre les frais de publication à 50%. Et pour finir, nous avons le 3e contrat à charge d'éditeur. Ça veut dire que la maison d'édition produit totalement le livre jusqu'à ce qu'il se présente comme ceci. Il donne cette copie à l'auteur et c'est à l'auteur maintenant de commander le nombre d'exemplaires qu'il veut, soit selon son public ou bien soit selon la demande du marché ou de sa cible. Donc voilà en quoi nous accompagnons la jeunesse ou bien les amoureux de la lecture dans son ensemble. Alors nous sommes présents ici à Yaoundé, plus précisément au niveau de l'immeuble sport, vers la descente du garage, le premier immeuble en carreau blanc. Nous sommes au 2e. Et nous sommes présents sur 9 plateformes du web, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Telegram aussi, Facebook, Trade, YouTube, TikTok, voilà, un peu comme ça. Le site web également, vous pouvez le voir là, en bas du roll-up, notre site web. Nous sommes ouverts, nous accueillons en majorité tous les livres, mais nous précisons bien que nous aimons plus, bien notre focus, ce sont des livres qui ont une plus-value. Alors, tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de découvrir la plus-value de ce livre. Vous allez comprendre pourquoi le prix des mots et pourquoi c'était nécessaire pour nous de le publier et en quoi ce prix des mots, ce livre, le prix des mots, a un impact sur notre société d'aujourd'hui. Alors, comme on a dit, après la présentation de la maison d'édition, nous allons directement passer la parole à l'éditrice que je suis. Alors, je vais continuer pour dire ceci. Le prix des mots, c'est un livre qui nous a touché particulièrement parce qu'il faut noter qu'au quotidien, la maison d'édition reçoit beaucoup de manuscrits. Donc les manuscrits viennent déjà en étant en compétition. Il y a tout le monde à en voir de partout, surtout qu'avec le site web, nous avons l'opportunité d'accueillir des manuscrits même en Asie, en Europe, en Amérique. Donc ça vient de partout. Alors quelle est la particularité de ce livre? prendre la place de la critique d'art. Hein. La particularité de ce livre, c'est que nous avons constaté que ça nous fait comprendre le poids que nous avons, le poids des mots, ou bien l'impact des mots, l'influence des mots que nous prononçons au quotidien. Que ce soit même envers nous-mêmes, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers ceux qui nous entourent. Quels sont les mots que nous utilisons tout le temps? Et puis ce côté mystérieux-là, des mots qui ont été effacés. Donc, et des mots qui ont disparu, et des mots qu'il faut restaurer. Il faut bien se demander quel est le prix. Pourquoi ces mots ont disparu et pourquoi il faut les restaurer et pourquoi dans le livre, ça a fait la quête de retrouver ces mots-là. Donc c'est un peu ça. Et pour faire un petit focus sur les langues d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, pour ceux qui ont peut-être fait les langues, nous avons rencontré des langues comme le grec, le latin, qu'aujourd'hui on qualifie des langues mortes, n'est-ce pas? Ça veut dire que les mots de ces langues-là ont été perdus. Ça a été éliminé, d'autres ont même été effacés. Mais aujourd'hui, on reconnaît l'anglais comme une langue dynamique, une langue qui s'expand, une langue qui adapte la technologie, qui adapte le sport, tout ça, en fait, qui embrasse les domaines où le développement se fait facilement. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est une langue qui sait beaucoup faire de l'emprunt. C'est-à-dire, si peut-être en français, un mot se dit que l'anglais n'a pas, l'anglais va l'emprunter pour s'enrichir. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens qui achètent des mots pour s'enrichir. Mais combien de fois vous autres utilisez les mots, ça ne vous donne rien. Ce livre doit vous apprendre beaucoup. Pourquoi au quotidien vous parlez les mots et ça ne vous enrichit pas? Pourquoi vous laissez certains mots? Pourquoi le choix de tel mot? Et quel est l'impact, tu sais, de ces mots-là dans vos vies? Voilà, donc c'est un peu ça. Et je crois que sans toutefois perdre le temps, je vais repasser la parole au modérateur qui va continuer. Merci à tous.
Merci. Oui, les émotions, ça mérite. On dit que le bon mot ne sort que la bouche du blanc. Voilà. Je crois qu'elle a été assez claire et que les futurs auteurs savent bien sur quoi s'en tenir en ce qui concerne les éditions, la voix, autant pour moi la voix du livre. Après donc ce déroulé, madame, monsieur, nous allons donc prendre le mot de bienvenue du représentant de madame la directrice générale de Subdeco en la personne de monsieur Danga, que je vous prie d'applaudir.
Merci à monsieur le modérateur, mesdames et messieurs.
Voilà, monsieur Danga, je rappelle également que madame Golod de Claire est la préfacière. C'est ça, voilà, la préfacière du livre, le prix des mots, bien évidemment, de l'auteur qui est juste à mes côtés. Voilà. Merci, monsieur Dabar.
Merci pour le rappel à ça. Donc, je vais jouer un double rôle, il me semble. Mesdames et messieurs, je disais tantôt, bonsoir, joyeux Noël et bonne année par anticipation. Je suis Bertrand Danga. Je représente ici madame le DG de Subdeco. On me demande de vous souhaiter la bienvenue. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ici même au sein de cette prestigieuse école qui perd dans l'encadrement et la formation des jeunes Camerounais. Pour preuve, nous avons Mouchili Yassin qui suit sa formation ici à Subdeco. Vous convenez avec moi que Subdeco ne forme pas seulement les comptables, les banquiers, les marketistes, les financiers, mais aussi les bons littéraires. Merci d'être là, merci d'être venu partager cette belle aventure avec nous. J'ose croire qu'à la sortie de cette dédicace, nous allons encourager le jeune Yassin en payant au moins 4 ou 5 livres chacun. Ça peut aider la famille, ça peut aider les voisins. Ça peut aussi le booster et l'encourager davantage à produire les autres ouvrages les années à venir. Le livre, c'est un voyage et cet après-midi, nous sommes les passagers. et les passagers doivent encourager le chauffeur qui est Yasser. Sur ce, une fois de plus, installez-vous et sentez-vous sur vous. Merci.
Voilà. C'était donc M. Danga Bertrand, représentant de Mme la directrice générale de Subdeco, cette institution qui nous accueille, qui nous a permis d'avoir cette belle salle. Voilà, après donc ceci, nous passons directement au King du jour, le roi du jour, si vous voulez sans doute, c'est lui-même par qui les mots sont des vecteurs de création. J'ai lu ça quelque part. Un mot, une phrase. Création de nouveaux lendemains. Voilà, ça s'écrit un peu de part et d'autre. Alors, madame, monsieur, voici pour vous monsieur Ahmed Yassine Mouchili, auteur du livre Le prix des mots, que je vous prie une fois de plus d'ovationner.
Lorsqu'il n'a plus le droit ou n'a plus le courage de nommer ce qu'il ressent, ce qu'il subit ou ce qu'il espère. Ce livre n'évoque pas un monde lointain ou imaginaire. Il parle de nous, de notre quotidien, de ce moment où nous préférons nous taire plutôt que de déranger, de ces vérités que nous étouffons par confort, par peur ou par aptitude, de ces mots que nous utilisons sans en mesurer la portée, oubliant qu'ils peuvent blesser, préparer ou transformer une existence. Lorsque les mots perdent leur sens, l'humanité s'appauvrit. Lorsqu'un mot comme liberté cesse d'être prononcé, ce n'est pas seulement une idée qui disparaît, c'est un avenir qui se referme. Le silence imposé devient alors une arme redoutable, car il efface la mémoire, affaiblit la pensée et range l'injustice invisible. La morale de cet ouvrage est volontairement exigeante, mesdames et messieurs. Elle nous rappelle que se taire peut parfois coûter plus cher que de parler. Que l'oubli peut être dangereux, plus dangereux que la souffrance, que chaque mot abandonné est une parcelle de notre humanité que nous laissons s'éteindre. Dans un monde où les paroles sont nombreuses mais souvent vides, où la communication est permanente mais le sens de plus en plus fragile, le plus d'un mot nous invite à une responsabilité profonde, celle de parler avec justesse, d'écouter avec attention et de transmettre avec conscience. Un mot peut éveiller une révolte, un mot peut apaiser une leçon, un mot peut sauver une mémoire, tant qu'il restera de voir pour prononcer les mots justes. Le silence ne pourra jamais réunir entièrement. Je vous remercie d'accueillir cet ouvrage, de lui offrir votre écoute et votre réflexion. En faisant vivre ces pages, mesdames et messieurs, vous faites bien plus que de lire un livre. Vous choisissez de préserver ce qui fait de nous des êtres libres profondément. Je vous remercie de votre parole.
Ça, c'est formidable. Encore une fois, des ovations pour Ahmed Yassine. Je vais tout simplement aussi oublier de dire Macha Chou. Voilà. Vous savez, c'était un brillant étudiant. D'ailleurs, Certainement, M. Denga Bertrand pourrait certainement nous en dire encore un peu plus, puisqu'il est étudiant ici à SUPDECO, et c'est très important, en tout cas, pour cet étudiant, et qui a toqué à la porte et à la maison la voix du livre. Et voilà, c'est pas trop cher, non, Madame la PDG. Ça n'a pas coûté trop cher. Bon, c'est pour animer un tout petit peu et déstresser l'atmosphère. Après donc, le mot d'Abid Yassine Mouchili, monsieur, nous allons donc passer, sans plus attendre, à l'intervention du critique d'art avec Dame Fatima Mouchirou, voilà, autant pour moi. Fatima va donc prendre la parole pour analyser l'ouvrage présenté et surtout mise. Elle va mettre en avant les thématiques, le style et les pattes du livre. Dame Fatima, comme disent les anglo-saxons, over to you.
Thank you, dear sir. Bon, je vous remercie déjà pour la parole du livre. Je vais vous avouer que je ne savais pas qu'on allait m'attribuer ce rôle. Donc, je vais commencer par enlever ceci et jouer mon rôle de personnage. Voilà. Je quitte le protocole à critique. Bon, merci. Il s'agit là de faire une critique et ma critique va commencer précisément sur l'auteur d'abord. Il s'agit là de mon frère. Oui, je vais me montrer, c'est mon frère. Merci. J'ai été d'autant plus touchée parce que il a un baccalauréat scientifique, une licence qui n'a rien à voir avec la littérature. Mais il a écrit ce roman. Moi, je n'ai jamais eu l'idée de produire ne serait-ce que quelques pages. Alors, je n'ai pas voulu lui demander ce qui l'a inspiré. Je lui ai dit, je vais lire et je vais te dire de quoi il en est. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'on a pu, nous, en tant que littéraires, attraper un scientifique et le mettre dans notre sac. Donc, nous sommes là pour la dédicace du livre Le Prix des mots. C'est vrai que j'aurais aimé que, en même temps que cette dédicace, ce soit une vente aux enchères, pour savoir combien chacun ici peut proposer pour les mots qui sont dans ce livre. Il s'agit du prix des mots. On présente ici, en première de couverture, vous voyez, il y a des chaînes. Est-ce qu'il s'agit là des mots qui ont été emprisonnés? Est-ce qu'il s'agit là des personnages qui sont dans un environnement hostile au sein duquel on ne leur permet pas certaines choses? Nous avons Saad et Saada qui sont présentés dans un environnement qui est connu par tous, la ville de Mbalmayo, qui n'a rien à voir de très particulier en fait. Mais leur vécu, ce qu'ils vivent, la façon dont on leur restreint certains mots est ce qui nous touche dans ce roman que j'espère que vous allez découvrir. Alors, Yassine a décidé de donner un prix à ces mots et également de leur donner la voix à travers la voix du livre, la maison d'édition. Et j'espère que chacun ici, comme l'a souligné l'éditeur, va au moins acheter 4. Parce que vous savez, on peut acheter un, le perdre, acheter un deuxième, le voisin dit, s'il te plaît, je peux lire. Et ensuite, ça se perd également. Donc, j'espère que chacun ici aura l'occasion de prendre un exemplaire de ce livre, de découvrir ce que Yassine a décidé de nous cacher ici, de découvrir ce que vivent les personnages Saad et Saada au sein de cette ville de Mbalmayo, et également de découvrir combien coûtent les mots qu'on prononce chaque jour au quotidien. Merci.
C'est bien expliqué puisque c'est limpide et c'est tranquille. Nous ramassons ces mots chaque jour, tout le long de notre vie, dans la société. Voilà pourquoi quelqu'un disait quelque part que les mots sont comme des pistolets chargés. Bon, je ne vais pas donner l'auteur ici. Merci, madame, monsieur, de nous écouter. La suite, ce sera bien évidemment avec cette séance d'échange entre vous et l'auteur. Vous allez donc, si vous avez quand même, en fait, si vous avez une petite interrogation, une petite jaune, quelque chose qui vous gêne, voilà, dans le sens de tout ce que vous avez écouté envers l'auteur principalement,
ou même aussi envers de la voix de Dieu Livre, voilà, de la maison d'édition, voilà, c'est le moment de poser votre question, ou alors votre interrogation à propos de tout ce qu'on a déjà déclamé depuis le début. La voix à vous.
Alors, je crois qu'avant que la foule ne prenne la parole, ou bien le public ne prenne la parole, je vais poser une question à l'auteur. Vous voyez, tout à l'heure, notre modérateur a dit, en langue, en dialecte, vous avez dit, « Mais chachou, voilà, mais chachou, voilà. » Et puis, le livre a cette particularité-là que ça se passe dans la ville de Balmayo. Vous voyez, c'est-à-dire, on entend là, on peut voir que non. De façon originaire, peut-être l'auteur est de l'Ouest, mais on se rend compte que le livre parle d'une ville dans la région du centre. Donc, et puis maintenant, le livre parle de la liberté des mots, les mots perdus. Alors, je vais poser la question là, même si je ne sais pas si quelqu'un devait poser ça dans la foi, je pose en premier. Quelle était cette motivation, c'est-à-dire l'inspiration de ce livre vous vient d'où? Ça vous vient d'où cette inspiration? Parce qu'on dirait que, donc, c'est-à-dire, il y a souvent sur les réseaux sociaux, les gens disent que le livre est électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, il y a le suspense qui est. Voilà. Quand le livre a un suspense qui tue et qui vous captive de temps en temps, on appelle ça le livre électrique. Et il a écrit un livre électrique. J'aimerais bien savoir quelle est cette inspiration-là qui a pu produire un livre si électrique. Merci.
Ok. D'accord. Déjà, j'ai choisi de narrer l'histoire du prix des mots, précisément dans la ville de Balmayo, parce que c'est là que s'est passée la véritable culture qui m'a permis de penser à ce titre, effectivement. Donc, le prix des mots me jaillit ici de l'esprit lors d'une conversation où il y avait deux camps opposés. Dans le mien, on se trouvait une thèse, et dans le camp adverse, on se trouvait une autre. Du coup, lorsque la conversation a évolué, la discussion a évolué, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais dans le mauvais camp. Et qu'on n'avait pas raison. Sauf que mes amis à moi ne voulaient pas accepter le fait qu'on n'avait pas raison. Et du coup, il y a un de mes amis qui dit, qu'il avance un argument tout en disant que, n'est-ce pas, voilà un ami également qui est d'accord. Du coup, à cause du départ que j'avais eu à prendre dans le même camp, je ne pouvais pas aller à l'encontre parce qu'on s'était dit le départ. Du coup, je me suis senti en quelque sorte oppressé. Je vois en quelque sorte ici le chapitre 6, l'ordre du silence. Donc, ça, c'est le premier déclic qui m'a poussé à penser à ce livre. Le second intervient ici concernant une des raisons qui m'ont fait aller dans cette ville, dans la ville de Balmayo. Parce que, bien évidemment, c'est là que j'ai fait mon aller de premier terminal pour celui-ci bilingue de Balmayo, dont je connais très bien la ville. Donc, en réalité, je m'étais fait une promesse concernant cette ville, mais je m'étais posé une contrainte. C'est la raison pour laquelle je parle du prix des mots dans cet ouvrage. On vous dit qu'en réalité, personne ne détient le monopole sur les mots. Parce que j'avais dit quelque chose, j'avais posé des mots, je m'étais fait une promesse. Quand que je pouvais la tenir, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai prononcé les mots, mais je n'étais pas détenteur de ça. Donc, c'est la deuxième raison qui m'a poussé à écrire sur concernant le prix des mots. Bon, à cette heure, ça peut paraître, c'est pas bizarre, absurde, je ne sais pas. Mais ce sont les deux principales raisons qui m'ont poussé à écrire.
C'est bon?
Permettez, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, vous voyez combien dans la salle? S'il vous plaît, vous voyez combien?
9.
6, n'est-ce pas? Alors, maintenant, vous voyez combien?
6.
C'est l'histoire de son livre, en fait. C'est-à-dire, il peut être de ce carré, il voit 9. Et puis, il tourne là. C'est toujours le même papier, mais c'est 6, n'est-ce pas? Voilà un peu ce qui m'est venu à l'esprit quand il expliquait le fait qu'il soit dans un camp et il se rend compte que non, les autres aussi ont raison, il n'a pas tort. Donc, c'est un peu ça, les mots, parfois. Les mots peuvent se jouer de nous. Parfois, on peut également prêter des mots aux gens, que ce soit des citations ou bien des paroles qu'on a longtemps entendues les gens nous dire. En certains temps, on les prononce aussi, mais on ne les pèse pas assez. Ou bien en certains temps, on les dit aussi, mais on ne peut pas vraiment les assumer. Donc c'est un peu comme un perroquet. Il peut dire fiche le camp. Mais le perroquet ne connaît pas vraiment ce que fiche le camp veut dire. Il ne peut pas peser le poids de ces mots-là. Donc parfois, ça peut être un héritage de la société, des amis, des parents, ainsi de suite. Alors merci, je crois que nous allons passer la parole au public. Quiconque a une question, n'hésitez pas. Et nous précisons également que pendant, pour gagner en temps, pendant que nous pouvons être en train d'échanger, ceux qui veulent s'en approprier du livre, vous pouvez passer directement à la table achetée. Comme ça, à la fin, l'auteur n'aura qu'à poser son autographe, s'il vous plaît. Alors, la parole est à qui de la prendre? Oui.
Voilà.
S'il vous plaît, le protocole peut avancer, balader pour le micro dans la salle.
Pour passer le micro à l'un des intervenants, voilà.
S'il vous plaît, le canevas est simple. Vous vous présentez tout simplement et vous posez votre question. Merci.
Voilà. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien évidemment aller procéder à l'achat du livre. Déjà, il coûte combien le livre? Voilà. Tout ceci à 5000 francs seulement. Chacun peut aller vers la boutique d'art d'Am Fatima pour se procurer son livre. Et juste après, ce sera la séance de dédicace avec l'auteur. Merci. Question.
Bonsoir à vous tous et merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Tulum Dylan, étudiant en supérieur. Ma question s'adresse directement à l'auteur du livre, M. Gassier Mouchini. Comment définissez-vous le prix des mots et en quoi ça va nous servir, particulièrement les auteurs et pour la jeunesse? Comment définissez-vous le prix des mots pour vous et à quoi cela peut nous aider, particulièrement la jeunesse? Parce qu'on constate que de nos jours, il y a beaucoup de mots qu'on lance et on ne maîtrise pas. Je veux mieux comprendre ça, afin que moi puisse sensibiliser les autres par rapport à ça.
Arrêtez en partie de vous donner de répondre à votre question. Vous avez dit que vous, les jeunes, vous lancez des mots qu'on ne maîtrise pas. N'est-ce pas? Vous me demandez de définir ce que c'est que le prix des mots. En réalité, ici, lorsqu'on rédige un ouvrage intitulé Le prix des mots, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, j'ai dit le prix des mots ici concerne un rappel, pas juste à la jeunesse, à n'importe quel individu concernant l'impact. On parle d'impact, pas juste positif, mais également négatif. Non seulement sur les relations interpersonnelles. Parce qu'à un moment donné, on peut construire comme une équipe. Et on ne peut pas savoir si on n'a pas la maîtrise sur la parole, sur les mots qu'on prononce. À un moment donné, on ne peut pas mesurer que ce soit l'impact négatif ou l'impact positif que ces mots-là peuvent avoir, soit sur une relation entre deux personnes, ou bien sur, je ne sais pas trop, la construction d'une réalité en même temps. Tout à l'heure, vous avez dit, vous lancez des mots, donc vous n'en mesurez pas l'étendue. En quelque sorte, vous venez de dire même ce que l'ouvrage ici est en train de donner comme moral. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne saurais plus comment répondre à vos questions alors qu'on peut les faire.
Alors, et pour prendre un peu des exemples très pratiques aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne riez pas beaucoup, hein. Je crois que c'est un exemple qui est en train de couper la société. Si peut-être quelqu'un prend le micro ici, il dit l'ordre règnera, ça vous dit quoi? Ça vous rappelle quelque chose, non? Ok, ça ne vous rappelle rien. Ok, si quelqu'un prend le micro et dit ça va faire fort, ou bien ça va manger fort, comme vous avez l'habitude de dire la jeunesse. Si quelqu'un dit ça va manger fort, vous comprenez déjà, non? Quand il y a souvent les soutenances ici, on n'a pas besoin de dire qu'il y a soutenance, il dit seulement à son ami que ça mange fort là-bas. Le gars comprend que ça veut dire descendre, ne cherche même pas. Donc on ne veut pas savoir qui soutient, mais on sait que ça mange fort. Donc le message est passé, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, c'est ça le prix des mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots que quand on prononce, ça passe un message. Et ça peut bâtir, comme ça peut détruire, n'est-ce pas? Et c'est d'autant plus courant qu'aujourd'hui, sur beaucoup des réseaux sociaux. Parfois, des gens disent que l'Afrique n'était pas prête par rapport aux réseaux sociaux. C'est à cause de quoi? À cause des paroles que les gens avancent sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? C'est à cause des mots que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Tu vois, quelqu'un va commenter que vous n'êtes même pas prêt. pour les réseaux sociaux. C'est pour dire que vos paroles là-bas sont parfois blessantes, parfois, vous voyez, il y a, je crois qu'il y avait une influenceuse européenne qui avait peut-être publié, qui avait publié son mur en disant que qu'elle en a marre de sa vie, qu'elle veut même sauter la vie. Et ses followers sont venus commenter en disant que tu ne nous sers d'ailleurs à rien. Et 24 heures après, elle s'était ôté la vie. Oui, comme quoi les paroles, vous voyez, les prix des mots, vous voyez ce que ça a coûté sa vie. Donc peut-être elle disait ça parce qu'elle était déjà en dépression avant d'écrire qu'elle en a marre de la vie. Mais elle ne s'attendait pas, tu ne nous sais à rien, disparaît d'ailleurs, vit là-bas, il y a d'autres même sur les réseaux sociaux, on dit reculez pas en pouce. Je vois souvent des trucs comme ça sur les publications. Vous voyez un peu autant de choses. Donc ça c'est le prix des mots. Ça peut bâtir, ça peut bénir, ça peut détruire, ça peut déchirer, ça peut même frustrer. Donc c'est un peu ça. Et pour comprendre vraiment et aller encore plus dans les détails, la réponse c'est ici. Hein. La réponse c'est ici. Donc c'est toujours mieux de prendre le livre. Ça va vous permettre de mieux comprendre et voir cela de façon plus pratique. Merci. S'il y a une autre question. Oui. Bon, est-ce que c'est possible que nous prenions en série? C'est-à-dire nous prenons une série de trois questions, nous les répondons. Nous prenons une série de trois questions, les répondons.
Voilà, nous allons aller dans ce sens-là, série de trois questions. Et puis l'auteur et puis la PDG de la Voix du Livre, l'éditeur de la Voix du Livre, les deux vont répondre au fur et à mesure. Ok, allons-y pour la prochaine question.
Bonsoir à tous et merci de nous avoir passé la parole. Je suis Félix et Princesse Claudia, étudiante à l'université de Yaoundé et je fais la filière de littérature. Et j'ai une question pour l'auteur même. Selon vous, dans quelle mesure les mots ont encore le pouvoir de changer la mentalité des personnes qui vivent dans nos sociétés, de manière positive ou négative?
On passe le micro à quelqu'un d'autre qui voudrait poser sa question. Voilà, on a aussi le monsieur ici devant qui a demandé également le micro tout à l'heure. Allons-y, madame.
Bonsoir à tous. Félicitations déjà à monsieur Yassine pour cet ouvrage. Je suis Beltoise de Foot et Photo, je suis infographiste. Du coup, la première de couverture me frappe à l'œil. Je vois des chaînes brisées. Monsieur Yassine, est-ce que vous pouvez nous donner une explication réelle de ces chaînes qui se brisent? Merci.
Ah oui, tout à l'heure, tu auras la réponse. Micro, tu vois ici devant. Et un monsieur ici devant, voilà. Pendant ce temps, le livre là, il ne coûte que 5000 francs pour ceux qui veulent en faire le procureur.
Ok, bonsoir à tous. Je suis monsieur Moilal, je représente le journal La Concorde. Félicitations à l'auteur, c'est pas facile d'écrire, vraiment. Je vous adresse toutes mes félicitations. J'ai une question toute simple. Avant d'entendre le prix des mots, j'ai souvent entendu les mots en pouvoir. Ça veut dire, si vous dites à un enfant tout le temps imbécile, il y a de fortes chances qu'il devienne imbécile. Si vous dites tout le temps voyou, il y a de fortes chances qu'il devienne un voyou. Est-ce que c'est dans ce sens-là que va également le prix des mots? Merci.
Vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de cet ouvrage, au départ, il y a ce qu'on appelle une première observation. Pourquoi? Parce que ça vient d'une autre que celle de Palmaio. Et à son arrivée, elle se rend compte qu'il y a une certaine oppression sur la parole comme sur les mots. Et elle décide de se lancer dans ce qu'on appelle une quête de mots. Dans sa quête de mots, il s'agit donc maintenant de prononcer, parce que je vais faire en quelque sorte de résumer une de l'œuvre. Parce que lorsque vous me posez une question sur la première de couverture, elle est censée véhiculer ce que l'ouvrage en question en train de dire. C'est la raison pour laquelle tout ici a une signification concernant l'histoire qui est véhiculée dans cet ouvrage. Les chaînes qui sont en train de se briser, comme je le disais tantôt, ça de ici est en train de faire ce qu'on appelle une quête de mots. Et ici, il est question de mener un combat au bout duquel il y aura une certaine libération ou une certaine libération sur les mots qui ont été préalablement oppressés. Maintenant, les chaînes qui sont en train de se briser, c'est démontre du départ de l'oppression des mots qui régissaient dans la ville de Manao au départ, que par la suite, ça a réussi à libérer en prononçant un certain mot ultime. Je ne vais pas vous gâcher le but de la culture plus tard. En prononçant un mot ultime. Donc ça veut dire qu'ici, les chaînes qui sont en train de se briser, ce sont en train de matérialiser le détachement, c'est-à-dire quoi? Je veux dire, si je peux utiliser le terme assez, concernant les mots qui étaient préalablement oppressés dans la vie de Malmaron et le recouvrement de paroles dans cette ville. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Super, merci. Je crois que je vais prendre la première question, celle de Princesse Tari, qui fait littérature, et qui a demandé dans quelle mesure les mots ont encore la capacité de changer la mentalité des hommes. Alors, ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'écrit pas pour rien. On ne parle pas pour rien. Donc, quand nous parlons, nos mots sortent parce que ça a un objectif. Par exemple, si tu veux faire un enfant danser, tu dis « danse ». Tu veux faire un enfant, je ne sais pas, jouer au tam-tam, tu dis joue au tam-tam, tu veux dire lave les assiettes. Après, si tu veux lui faire passer à l'action de faire la vaisselle, tu dis fais la vaisselle, l'enfant va faire. Et de la même façon, si tu, je crois que la question va rejoindre pour monsieur le journaliste, pour dire, si tu dis à l'enfant feignant, à force d'écouter con, feignant, idiot, tu iras en prison. Parce que quand si vous avez déjà fait les cours de développement personnel, vous allez comprendre que la majorité des personnes qui font le cours de développement personnel découvrent que la majorité des mots qu'ils entendent au quotidien finissent par bâtir leur homme intérieur. C'est-à-dire qu'ils finissent par reproduire ce qu'ils se disent au fond. Même quand quelqu'un commence à dire « je suis dans la dépression », c'est parce qu'au fond de lui, il se répète ce mot. Quelque chose ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Et il y a même des gens qui entendent des mots, des voix dans leur esprit, seul, étant seul. Alors c'est un ensemble de mots qui se répètent. Et il y a certains enfants, peut-être, prenons peut-être le cas de trois enfants. Un enfant qui est très aimé, qui est challengé chaque jour, sa maman lui dit « Allez, tu peux aller, tu peux t'en sortir, tu vas y aller, tu es un champion en fait. » Et un enfant qui chaque fois « Va là-bas, ça ne pas, tu ne sais à rien, feignant. » En fait, l'enfant va perdre confiance en lui parce qu'au fil du temps, les mots qu'il a écoutés ont dégradé son homme intérieur. Ça détruit sa personnalité. Tandis qu'un enfant peut-être qui peut-être est un paresseux, mais qu'il a écouté, oui, tu peux. Il a peut-être porté juste cette bouteille. On a dit, tu peux porter deux. Demain, il va porter deux. Tu dis, même si tu peux y aller, ça va le booster, ça va le booster, ça va le booster. Les mots sont comme des. Je veux dire, c'est comme la nourriture de l'âme, en fait. C'est-à-dire, les mots que vous avancez, que ce soit les mots d'amour, c'est comme ça. Enfin, tous ceux qui ont déjà vu animer savent. Que ce soit les mots d'amour, ça attendrit le cœur. Que ce soit les mots de méchanceté, ça va déchirer. Donc, les mots peuvent changer également les mentalités. Si nous écrivons encore aujourd'hui parce que nous croyons que ces mots ont du pouvoir sur les êtres humains et que ça peut changer quelque peu de choses, ça peut transformer. Dans la majorité même des cours de développement personnel, il y a une partie de proclamation où on donne tout un format ou bien tout un livre, une partie aux gens qui doivent se proclamer ça chaque fois. Surtout les gens qui veulent faire une reprogrammation mentale, peut-être pour quitter peut-être du million au milliard. On vous demande de vous regarder dans le miroir chaque jour et vous dire « je vais être milliardaire, je vais faire ceci » et vous passez à l'action. Dernièrement, j'écoutais encore une courte vidéo sur TikTok où quelqu'un nous racontait que Serena Williams et sa sœur, que c'est vrai que c'était des noirs, mais ils étaient dans un milieu où il y avait des blancs qui avaient déjà eu de certaines performances en matière de sport. Elles font encore quel sport là? De tennis. Mais parce qu'ils avaient un papa qui leur disait jour et nuit que vous allez, vous pouvez, vous êtes les meilleurs, vous êtes les, you are the best, move on, go on, never give up, keep on going. C'est-à-dire, à force d'écouter le parent leur dit ça chaque jour, ils ont cru qu'ils pouvaient. Et chaque fois, leur parent disait que regardez, ce n'est pas la couleur de la peau qui est en train de jouer. Ce n'est pas la mélanine qui est en train de jouer, c'est l'esprit qui est en vous. Et vous êtes des vainqueurs, vous êtes des lions. Allez-y, allez-y. Et c'est comme ça qu'ils ont été nourris par les bons mots, les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut. Et elles ont bravé vous voyez aujourd'hui sur la scène internationale, elles sont des champions. Alors, on connaît aussi des parents qui ont longtemps dit à leurs enfants, tu n'es qu'une pute, va sorcière, va là-bas sorcière, marabout, tant de choses qu'on raconte, oh toi la feignante, idiote, idiote, idiote. Après, l'enfant est même déséquilibré. Et puis, il y a votre part dedans, puis il y a votre responsabilité. Si vous avez passé le temps à dire idiote, feignante, il faut aussi, elle va vous donner les résultats d'une idiote, d'une feignante. Donc, c'est un peu ça. Donc, les mots ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. Très important de savoir ça. Et les mots peuvent changer la mentalité. Ça peut changer la mentalité. La preuve en est, vous allez voir que des gens qui font des reprogrammations prennent des livres dans le domaine où ils veulent reprogrammer leur mental. Si peut-être il veut faire une reprogrammation dans sa gestion financière, il lit des livres purement gestion financière. Si c'est dans la comptabilité, ou bien il veut changer son mental dans sa perception de soi-même, il lit des livres qui lui parlent de combien de fois elle est bien, combien de fois elle est championne, de combien de fois elle peut y arriver, de ne pas baisser les bras. C'est comme ça. Vous voyez un peu. Mais si c'est un livre qui va lui dire combien de fois le pays est cassé, parce qu'il y a aussi des livres comme ça, l'Afrique noire est mal partie. Voilà, si vous lisez l'Afrique noire est mal partie, vous allez voir comment c'est mal parti. Bon, vous pouvez voir et puis arranger, comme vous pouvez voir pour dire que bon, c'est même déjà mal parti, mais on n'a plus rien à faire. Donc c'est un peu ça, les mots ont un pouvoir, les mots ont vraiment une puissance. Bon, il faut noter que le livre de Amit ce n'est pas carré dans ce sens-là, c'est-à-dire ça ne s'inscrit pas seulement dans un cadre où ça montre que les mots ont pouvoir et tout. Comme il a si bien dit, à un certain temps, il y a une sorte de quête des mots. Mais il faut bien se poser la question que qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Vous voyez en quoi son livre est différent d'un livre de développement personnel. Parce que son livre parle aussi de la quête des mots, la libération des mots comme vous avez vu. Vous voyez? Et le prix qu'il faut pour que ce soit libéré. Ça peut être même pour votre propre cas personnel. Est-ce que quand vous vous regardez, vous vous dites j'aime, je m'aime? Est-ce que vous vous appréciez? Je suis performant, je suis ordonné, je suis discipliné, je vais y arriver, Est-ce que quand vous regardez, vous dites ça? Ou bien quand vous regardez, vous voyez là, dans un miroir une déchirée, une ratée, voilà. Ça dépend. Vous voyez donc les mots même les propres mots que vous vous dites en vous regardant, ça compte. Maintenant, si vous êtes cette personne-là qui se regarde toujours en pleurant, en disant que non, ça ne va pas aller, d'ailleurs même je suis nul, je suis zéro, je ne ressemble à rien, peut-être parce qu'on vous a trop dit ça, ou bien peut-être parce que vous avez vécu trop d'expériences négatives, il faut donc briser ces chaînes, ces mots négatifs-là, aller à la quête des mots qui bâtissent pour vous regarder et dire toi, tu seras couronné, toi, tu es béni, toi, tu vas avancer, toi, tu vas réaliser telle chose, toi, tu ne vas plus reculer devant les épreuves, toi, tu vas triompher de tes épreuves. C'est vrai, tu es tombé hier, mais aujourd'hui, il est temps de s'élever. Vous voyez un peu. Donc, c'est autant de choses que vous devez découvrir en lisant ce magnifique ouvrage de Amit. Merci. Est-ce qu'il y a encore une série de questions?
Voilà, nous allons encore prendre trois questions. On y va? Ok.
Ce monsieur devant vous a été une figure pour moi, c'est le meilleur ami depuis que nous sommes au lycée. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens encore à dire, je suis ému de le voir aujourd'hui derrière cette table, ce qui veut dire que, en fait, nous sommes devenus des grands monsieur. Et vraiment, je tiens à ce que vous fassiez un maximum d'acclamations pour votre ami. Félicitations, mon frère. Et j'aurais servi de deux questions. Moi, en tant qu'ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique, en quoi ce livre pourrait-il m'ajouter un plus dans mon devenir? Ma deuxième question serait la suivante. Je veux savoir en quoi ce livre est-il meilleur que d'autres livres, que d'autres œuvres littéraires? Qu'est-ce qui lui diffère des autres œuvres? Qu'est-ce qui lui diffère des Belles Amies et autres qu'on a pu lire dans le passé? J'aimerais que mon cher ami puisse lui-même nous répondre à ces deux questions. Ceci, je tiens à distancer la parole.
Ok, une autre question. Voilà.
Il y a des gens.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Madame Mouché, Tomiska-Mboulion. Je suis la sœur de l'auteur. Et déjà, félicitations. Et comme tout le monde, je découvre le livre comme vous. Je pense que c'était intentionnel de sa part, parce qu'il sait que je suis très, généralement, très critique envers lui. Il a voulu me faire la surprise, une très belle surprise d'ailleurs. Déjà, félicitations, Tiffin. J'avais des questions, mais heureusement pour moi, elles ont déjà été répondues. La première, c'était pourquoi Balmayo ? Ça, déjà, j'ai fait. Deuxièmement, quelle est la plus-value de ce livre ? Déjà, j'aimerais, si possible, moi j'aime les choses expliquées terre à terre. Ça ne sort pas, ça ne sort pas la fiction, ça ne sort pas. Théâtre, quelle est la problématique du livre? Qu'est-ce que ça pose comme problème? Maintenant, ma dernière question, c'est. Ça s'adresse à Madame l'éditrice, que j'aime beaucoup à lui-même. La voix du livre, ça parle. Vous avez dit les mots en un pouvoir. Vous avez dit les mots ont un prix. Maintenant, le problème de nos jours, c'est que les jeunes ne lisent pas. Ce n'est même pas seulement les jeunes, même les adultes ne lisent pas. Parce que c'est tout le monde, je ne l'accuse pas, même on ne lit pas. Il peut nous envoyer, comme il a envoyé les dédicaces, non pas au hasard. Vous voyez l'invitation et puis vous lui demandez encore 5 ans, alors que c'est sur le pied. On ne lit pas. Mais madame l'éditrice, j'ai une question pour vous, ça va m'aider peut-être dans ma profession. Quelle est votre motivation, sachant qu'ils ne lisent pas? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne cet espoir-là à encourager, à soutenir? Qu'est-ce qui vous fait rêver et savoir que vous allez toujours réussir dans votre tâche? Merci.
Merci beaucoup, Alhamdulillah, Saïd Mouchili. Je voudrais tout simplement dire merci. Merci beaucoup pour le partage de ce moment. Ce beau moment de partage littéraire à venir. Félicitations à l'auteur pour des réflexions et d'échanges autour du sens de mon. Je lui souhaite un bon courage et qu'il aille de l'avant. Je vais l'encourager en prenant ce livre qui nous a caché depuis et le prix de mots pour découvrir ce dont il est question et que franchement, je bénis en tant que père de l'auteur.
Alors, bonsoir. Je suis Gabriel Absente Doria, en troisième année marketing digital à Ascentia Business School du groupe Collège de Paris. Alors, ma question est la suivante. Donc, avant tout, je souhaite remercier et encourager M. Mouchi Hamid pour ce qui nous a produit. Donc, ma question est la suivante. Après cette présentation, on serait tenté de penser que voilà, les mots ont plus d'impact que les actes. Alors, je voudrais savoir, M. Mouchi, est-ce que pour vous, les mots ont plus d'impact que les actes? Merci bien.
Bonjour tout le monde. Je suis Madame Magia Rabiatou. Je suis la tante de l'auteur. Si je prends la parole, c'est déjà pour féliciter la bravoure de ce jeune homme qui, malgré qu'on ne lise pas, comme l'a dit sa grande sœur, a pris le risque de miser sur l'écriture. Je vais dire, l'écriture, les mots, c'est pas seulement écrit, les mots, on les écoute également. Donc même si aujourd'hui nous ne lisons pas, vous écoutons. Et je pense que les mots constituent une thérapie pour l'âme. Donc, félicitations, monsieur Mouchili.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Younous Chouquette, frère aîné de l'auteur. Tout à l'heure, on a parlé de la quête des mots qui auraient disparu, et ainsi de suite. J'aimerais savoir, est-ce qu'en restituant ces mots, est-ce que ça peut contribuer au retour de la justice et de l'équité dans une société, parce que sur la couverture, je vois comme une balance. Merci.
Et d'accord. Nous allons donc procéder aux réponses.
Ce livre apporte un plus et en quoi il diffère des autres. Le plus d'abord, je ne vais pas me cantonner à mon ouvrage, je vais essayer de répondre déjà de manière générale. Le plus de cet ouvrage, comme l'a si bien dit Julien Green, ce que nous devons comprendre ici, c'est que le livre est une fenêtre par laquelle l'on s'évade déjà. Et maintenant, donc, lorsqu'on lit un ouvrage, en réalité, on est censé voyager, au sens clair du terme. On est censé voyager. Cet ouvrage, la morale dans cet ouvrage n'a pas été véhiculée en a priori. Lorsque vous lisez cet ouvrage, vous allez vous rendre compte que c'est comme si on était dans une histoire d'aventure. Pourquoi l'ouvrage a été rédigé ainsi? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Julien Green a dit, le livre est une fenêtre par laquelle on se bat. En réalité, le lecteur est censé éprouver du plaisir lorsqu'il est en train de feuilleter les pages d'un livre. Ça, c'est d'abord le premier plus. Le lecteur est censé éprouver une certaine distraction. C'est-à-dire comme s'il était en train de voyager de manière, je ne sais pas trop quel terme, dans son imagination, il va quitter de la ville de Yaoundé, il va voyager, il va découvrir une bande. C'est pour ça que la description de la ville où se passe le récit est cruciale. Pourquoi? Parce que ça permet au lecteur non seulement de s'évader, mais de vivre dans une ville où il n'a jamais mis le pied. Ça, c'est la première plus-value. La seconde plus-value ici est que toute œuvre littéraire permet déjà de s'écrire. Même si à un moment donné, lorsqu'on lit cette œuvre littéraire, on ne comprend pas la morale qui est véhiculée, mais juste la théorie qu'on est en train de lire, qu'on est en train de parcourir, nous aide déjà non seulement dans l'augmentation même de notre vocabulaire. En réalité, je ne suis pas en train de dire que cette œuvre est compliquée, elle n'est pas compréhensible. Mais lorsque vous allez lire cet ouvrage, certains seront tentés de penser que c'est une histoire d'aventure. En réalité, l'ouvrage a été rédigé ainsi parce qu'on ne veut pas spécifier la catégorie de lecteur qui va lire cet ouvrage. Chacun peut lire, ça va maintenant dépendre de la capacité d'analyse de tout un chacun. Mais tout le monde peut y trouver son compte. L'enfant du primaire peut lire, mais il va rester cantonné là sur le fait qu'on est en train de parler d'une histoire d'aventure. Celui du secondaire va lire avec ce qu'on appelle une lecture méthodique. Déchiffrer le texte et comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Maintenant, celui qui a une capacité d'analyse un peu plus poussée va lire en comprenant directement le message qui est en train d'être véhiculé. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on lit un livre, quelle que soit l'issue possible, on aura toujours une plus-value à découvrir dans cet ouvrage. Maintenant, concernant le deuxième volet de votre question, vous dites en quoi cet ouvrage diffère des autres. En réalité, le livre intitulé « Le prix des mots », je crois que cette question avait déjà été répondue tout à l'heure, sauf que vous l'avez juste reformulée. Elle est en train de véhiculer une morale vraiment très forte sur l'impact des mots. Je ne sais pas, mais je crois que je suis le premier auteur à narrer l'histoire dans ce sens-ci.
parce que je ne sais pas, quelqu'un d'autre a déjà pu écrire quelque chose tournant autour des mots, mais sauf qu'il a pu narrer l'histoire, mais pas dans le sens que je suis en train de, d'aventure, comme je suis en train de véhiculer. Donc, pour parler de la particularité de mon ouvrage, en réalité ici, lorsque je suis en train de parler du prix des mots, on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez parcourir cet ouvrage, vous allez vous rendre compte que cela a été fragmenté en plusieurs chapitres. C'est parce que le prix des mots est ambiguel ou dans son essence même. On ne peut pas rester et situer une morale bien précise ou bien véhiculer une morale concernant le prix des mots. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans l'ouvrage, nous avons décidé de l'éclater en chapitres. Parce que chaque chapitre ici est en train de véhiculer une morale bien précise concernant l'aspect du prix des mots. Maintenant, à la fin, l'ouvrage, vous allez vous rendre compte qu'il y a un dernier chapitre, le chapitre 15, intitulé le prix des mots. C'est pour dire que, en réalité, quelle est la valeur d'un mot dans notre société? Comme j'ai posé la question tout à l'heure dans mon discours d'ouverture, qu'advient-il d'un peuple lorsqu'on lui retire la possibilité de pouvoir nommer le monde? Et c'est là que cette œuvre trouve sa particularité. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte ici là que la parole devient en quelque sorte une denrée rare et précieuse. Parce que lorsqu'on nous retire la capacité de pouvoir nommer le monde, la capacité de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, en réalité c'est comme si on avait été déshumanisé, on n'avait plus de personnalité. Et Sada ici, à travers sa quête de mots, est en train de nous montrer non seulement la valeur intrinsèque d'un mot. Et cela concerne même la manière de perpétuer les connaissances. Pourquoi? Parce qu'à partir des mots, on peut transmettre les connaissances à une progéniture future. Alors que s'il y a certains facteurs dans la société concernant les mots qui disparaissent avec le temps, qu'allons-nous transmettre demain? Allons-nous nous rendre compte que plus le vocabulaire devient pauvre, plus certains éléments de la société disparaissent. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, on a dit que le monde commence par la parole, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que, quel que soit lambda, cet ouvrage trouve son sens même dans la mesure où elle entre nous rappeler ici l'impact majeur des mots dans notre société. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On nous pose la question ici que terre à terre, quelle est la problématique du livre? Je ne sais pas si toi tu as acheté le livre à 10 000, mais la question aussi mérite que tu prennes d'abord un second ouvrage.
Voilà, elle a fait deux.
En réalité, on nous dit que terre à terre, quelle est la problématique de l'ouvrage? Ce que nous devons d'abord comprendre ici, en réalité, c'est que on est en train de dire ici là que les mots ont entré, je ne sais pas, à un moment donné, les mots machins. Je vais vous m'en recevoir. S'il vous plaît, vous me donnez une bouteille de l'eau.
Pendant qu'il va réfléchir sur la thématique terre à terre, vous savez, quand on a déjà une certaine grandeur, quand on ne sait plus comment revenir, donc c'est un peu ça. Donc, je crois que la même question, la question venait de la même dame qui demandait, du fait que les jeunes ne lisent plus, quelle est donc la motivation de l'éditrice que je suis? Qu'est-ce qui me fait croire que ça va réussir, n'est-ce pas? Alors, il faut noter que le monde du livre, c'est un monde dynamique aussi. Et il y a une dame qui a souligné le fait qu'aujourd'hui, les livres sont en audio. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, la version papier ne va jamais, ça va jamais mourir, ça reste. Mais il y a la version numérique aussi. Il y a la version audio, autant de choses. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a développé tellement d'activités autour d'un livre, au point où le livre ne s'arrête plus seulement au lecteur, auteur-lecteur, non. Par exemple, on peut organiser autour de ce livre une conférence sur comment guérir des mots toxiques qu'on a reçus de son environnement. Du coup, il y aura des personnes qui vont venir parce qu'ils sont blessés. Du coup, on pourra intégrer les psychologues, les sociologues et l'auteur. Et l'auteur pourra faire comprendre que dans ce livre, vous voyez des gens qui évaluent, en fait, qui cherchent des mots. Et puis, ça sera l'occasion de dire à toutes ces personnes qui ont écouté les mots qui les ont blessés pendant toute leur enfance, ou bien même pendant leur période adulte, et on les fait regarder, on les dit, regardez, voici, vous devez commencer à chercher les mots qui doivent vous bâtir. Que comme, de la même façon que ça et ça, cherche les mots, vous-même cherchez les mots qui vont vous bâtir. Du coup, vous voyez que l'auteur, aujourd'hui, n'écrit pas seulement pour le lecteur, mais écrit aussi pour certaines personnes qui souffrent, bien qui... En fait, les livres viennent comme des solutions. Et quand un livre devient une solution, vous comprenez que ça fait plus que une simple lecture. Vous voyez, tout à l'heure, je prenais l'exemple que pour peut-être faire une reprogrammation mentale ou bien faire une reprogrammation financière de votre homme intérieur, vous pouvez lire des livres sur les finances. Si vous pouvez peut-être faire une restauration de votre âme, vous lisez des livres qui donne des paroles, des bonnes paroles, vous voyez. C'est pour ça que vous allez voir, on va écrire des livres comme des livres du genre l'absence du parent, pour qu'un enfant qui a grandi sans son parent puisse le lire. Vous allez voir, on va écrire des livres comment éduquer ses enfants de 0 à 7 ans. Vous voyez qu'à ce moment-là, ce n'est plus seulement un simple livre. C'est lui qui achète en train d'acheter un médicament à son problème, ou bien en train d'acheter une solution à son problème. Voilà. Donc c'est ça qui fait que les livres, et c'est même dans... Et puis maintenant, parlons peu. Vous allez voir aujourd'hui pourquoi on achète encore les encyclopédies, les trucs qui faisaient 1600. Parce qu'il y a des connaissances qu'on ne veut pas perdre. Par exemple, s'il y a l'encyclopédie peut-être du Cameroun, disons peut-être du patrimoine camerounais de 1960 jusqu'à ce jour, mais vous allez acheter. Parce que vous savez que d'ici 5 ans, vos enfants ne sauront même plus comment on appelait tel outil traditionnel. Ils ne sauront même plus quel était le nom de telle danse. L'habillement que vous avez fait là. Imaginez que d'ici peut-être 20 ans, les enfants ne sauront même pas bien s'habiller en pagne comme ça. Et qu'il y a quelqu'un qui a sorti tout un catalogue des pagnes africains. Vous allez acheter pour que les enfants là voient ça. Vous voyez un peu. Ce qui fait que vous allez voir, certaines personnes, certains Africains qui quittent l'Afrique pour l'immigration peut-être, ils ont tendance à aimer ce type de livre. Parce que leurs enfants là-bas au quotidien voient les bugs, voient des habits un peu décolletés et tout. Mais ils ont envie de montrer aux enfants que pendant que vous habillez à décolleté trop léger là-bas encore chez vous en Afrique, on met encore le pagne. Et du coup, pareil, ils vont acheter, ils vont dire aux enfants le soir que venez un bon régal. Ils vont même lire les histoires sur grand-mère, tout ça, pour que les enfants comprennent que si le feu est comme une, je sais pas, comme une table, on ne voit même pas la flamme. Sachez qu'en Afrique, il y a encore les trois cailloux qu'on met là, il y a encore la flamme qui monte, il y a du bois, du charbon, on va au champ. Il y a des enfants qui ne savent pas que le macabre se creuse, quoi. Oui. Donc du coup, des pareils livres, ça s'achète. Donc c'est pour ça, le marché du livre ne souffre pas. Merci.
La problématique du livre. Alors, si on suit la tête de ça, donc on va comprendre et quel est le véritable combat qu'elle est en train de mener dans cet ouvrage. Alors, nous rendons compte que ça devient d'une ville complètement indépendante de celle de Balbayo. Et arriver dans cette ville, elle se rend compte qu'il y a certaines phénomènes étranges qui sont en train de se développer dans cette ville, entre autres la disparition des mots. C'est la question de ce qu'on va ajouter. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire n'est pas, elle est métaphorique. Donc c'est pour dire que, a priori, tu ne peux pas, tu ne liras pas en comprenant directement de quoi il s'agit. Mais si on est en train d'analyser petit à petit, nous allons nous rendre compte qu'elle est en train de mener une quête de mots et ensuite elle prononce un mot ultime qui va libérer l'oppression sur les mots qui avaient été préalablement supprimés du langage. Disons merci. Maintenant, partons donc maintenant de tout cela, une question fondamentale est en train de se former. Une question fondamentale jaillit de notre esprit. Quel est le véritable coût de la parole et jusqu'où les mots peuvent-ils, je dirais, engager sur nous, détruire celui qui les prononce comme celui qui les qui les reçoit. Donc, si on veut ici parler de problématiques, c'est-à-dire de quoi en train de traiter l'ouvrage, nous pourrons nous cantonner à cette question-là et comprendre exactement de quoi il s'agit dans cet ouvrage. Je ne sais pas si tu as entendu votre question.
Merci. Il y avait une autre préoccupation. Ah, d'accord.
Okay, on va prendre la troisième question de Mme Aïssa Tou,
okay.
Qui demande à savoir est-ce que les mots ont plus d'impact que les actes. Déjà, nous devons comprendre ici que toute création commence d'abord par l'imagination. Imagination qui n'est en étant prononcée, c'est-à-dire dit, ce qu'on pense. Et ensuite, l'acte sera posé plus tard. Donc c'est pour dire en clair que les mots ouvrent les voies et les actes les confinent. Donc, je ne vais pas dire ici que est-ce que les mots sont... Mais je vais dire que l'un est primordial et l'autre vient juste confirmer ce qui avait déjà été commencé. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Alors pour aller terminer, on va le prendre de façon ramassée dans la société. Parfois peut-être quand, peut-être un ivrogne lève la main sur sa femme, n'est-ce pas? Après, on va dire non, c'était l'alcool. On va dire non, c'est ce qu'il pensait déjà. Il avait déjà ça à l'esprit, c'est ça alors. On va dire c'est ce qu'il pensait, il se disait même déjà ça. Donc l'acte est venu juste confirmer, n'est-ce pas? Alors, pour aller sur la dernière question, je me permets de répondre un peu avant de passer la parole à l'auteur. Alors, je crois, monsieur, vous avez dit Younous. Voilà. Alors, il a demandé la quête des mots. Voilà, il a demandé si est-ce que cela peut reconstituer une sorte de justice, d'équité, la quête des mots qui avait disparu. On va prendre un cas, prenons les cas des relations, n'est-ce pas? Peut-être entre collègues, ou bien les relations même amoureuses. Voilà, comment est-ce que les mots se perdent? En amour, les mots se perdent comment? Peut-être comment tu vas, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as dormi, tout ça, il n'y a plus, non. Les mots ont disparu. Maintenant, la personne, bon, en fait, je vais dire, la personne qui a constaté cela, peut vouloir la quête, la restitution de ces mots. Et puis va dire, ah, tu me demandes même plus comment j'ai dormi, tu me demandes plus si j'ai même mangé. Ça, c'est déjà une quête qui est en train d'être... Mais au départ, les deux, ça se demandait peut-être mutuellement. Mais après, quand il y a déjà des tensions, bien une certaine distance, on se rend compte que certains mots sont perdus. Il y a déjà une sorte de déséquilibre. Et puis maintenant, il faut donc restituer, il faut chercher ces mots-là. Et c'est la même chose en milieu de travail. Vous voyez, parfois, vous faites votre job, votre job et votre boss dit good job, ça c'est bien, félicitations. Et puis peut-être la petite gratification là, ça encourage. Mais parfois, il n'y a plus de félicitations. L'employé, c'est ça un peu comme un acquis, genre, elle le minimise. Et parfois, même ces mots d'encouragement deviennent plutôt des mots de menace, du genre, vraiment, ton travail est médiocre. On va revoir, va relire ton contrat. Vous voyez qu'il y a eu une perte, une disparition de certains mots, n'est-ce pas? Maintenant, il faut une quête pour que cela soit restitué. Et ça peut être restitué, comme il a posé une très bonne question, c'est-à-dire, est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'équité? Ça veut dire que les mots, il y a des mots qui ont été perdus également dans chaque vie. Vous pouvez regarder dans votre vie et dire, est-ce que les mots qui ont été perdus ou bien qui ont disparu? Les mots d'encouragement de votre propre personne, parfois ça peut être avec vos enfants. Vous vous rendez compte que des mots d'encouragement ont disparu. Des mots d'amour ont disparu. Des conseils même ont disparu. Là, c'est déjà le désordre total. Et parfois, le parent est déjà désespéré. Il a jeté les dégâts. De toute façon, qu'il devient ce qu'il va devenir. Donc, vous voyez, il y a dans la vie de tout un chacun, soit une disparition de certains mots. Et pourquoi? Il faut se poser des questions. Et s'il faut une quête, comment est-ce qu'on on fait cette quête-là? Est-ce pas la guerre? Est-ce pas la paix? Est-ce pas... Donc, c'est un peu ça. Je crois que je vais laisser la parole à l'auteur pour compléter.
Je vais évidemment juste compléter, hein. Je ne vais rien dire d'autre. La balance ici, dans cet ouvrage, aborde même une autre dimension de la morale de ce livre. Parce que concernant, lorsqu'on est en train de parler, c'est du prix des mots, dans la quête de Saada ici, en réalité, lorsqu'on est dans une relation ou des personnes, il veut savoir trouver le mot juste. D'où la balance, d'où l'équilibre même de la balance. Parce qu'en réalité, la balance ici est en train de symboliser et l'équilibre et comment on va dire l'équité concernant les mots qu'on choisit, la justice, merci. Concernant les mots qu'on choisit pour soit régler une situation ou pour faire attendre quelque chose à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle la balance également a été représentée ici. J'ajoute juste ce que la dame a dit, elle m'a très bien dit, franchement, plus que moi.
Et c'est très important, si les éditions envoient du livre, et c'est Maya qui a comme ça un tout petit peu de données, ce temps, madame, monsieur, voilà, est-ce que, avant qu'on aille, parce qu'il nous restera juste l'interview avec l'auteur et puis la présente de la voix des étudiants, la voix du livre, et surtout encore, voilà, et je crois qu'il y a encore une autre série, on prendra encore la dernière série de questions, ce sont des hôtesses, voilà, la dernière série.
Je voulais savoir, après ici,
okay.
Après ici, où trouver le prix des mots, le livre en lui-même, parce que j'ai cette question qui m'a été posée par WhatsApp à l'instant.
Une autre question, voilà, allons-y, c'est la dernière série.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis madame Fréjean-Jeanne, la maman de Domon Adine. S'il vous plaît, vraiment merci, je voulais seulement féliciter ces enfants. Parce qu'à nos jours, si ce n'est pas donné à n'importe qui, sortir un livre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Que Dieu vous bénisse et vous donne le courage d'avancer et de Amen. Sortir beaucoup de livres.
Amen.
Bonsoir à tous. Moi, c'est okay. Madame Onu.
Ok.
La maman de Yassine. J'aimerais que c'est l'ami de mon fils, son camarade en classe. Je suis avec lui tous les jours. J'aimerais d'abord féliciter mon garçon et que vous m'appartiez pour lui cette face que je ne pouvais pas imaginer. On était tous les jours. Je n'avais jamais imaginé. Félicitations, mon fils. Que Dieu te bénisse. Allez.
Amen. Voilà. Et nous.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut.
Moi, c'est madame Ayanini Mouchili Sahada. Et je suis la sœur, la grande sœur de l'auteur. Avant ce jour, j'ai eu le privilège de parcourir le. Et la première des choses qui m'a frappée, c'était le style d'écriture. Vous savez, quand on grandit avec nos petits frères, parfois on ne s'imagine même pas les capacités qu'ils peuvent avoir. J'étais déjà d'abord surprise de voir dans quel style il écrivait. Parce que avant même que ce projet n'aboutisse et ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, il m'avait présenté deux formats, je crois. Du début du livre des mots, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de livre. Je le lis, après il me dit, est-ce que c'est bien? Je lui dis, mais c'est bien. Et depuis, je n'avais plus de suite. Moi, j'ai cru que voilà, c'était un projet qui avait été abordé jusqu'à ce qu'ils me disent, voilà, la maison d'édition, la voix du livre a accepté de publier et tout. C'était une grosse surprise et je tiens déjà d'abord à le féliciter encore ici. Et je vous conseillerais vraiment de l'acheter. En fait, je ne le dis pas parce que je suis sa sœur, non. C'est parce qu'en lisant, je vois là un récit allégorique déjà qui présente une aventure de deux jeunes personnages dans une ville que l'on connaît tous. Mais le récit est un peu, je dirais, fantasmagorique. Parce que lorsque vous allez le lire, comme il a dit, il y a trois niveaux, plusieurs niveaux d'interprétation. Il y aura certains qui vont rester au récit de l'aventure, mais d'autres qui vont vraiment, si vraiment ils en ont envie, plonger dans une analyse vraiment, presque j'ai envie de dire, métaphysique. Quand je le lis, la première des choses qui frappe dans mon esprit, c'est la vie d'aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux. Parce que je me rends compte que il a écrit là un exemple de ce que nous vivons. Lorsqu'on parle des mots qui ont disparu et autres, en fait, parfois, on se rend compte que nos petits-enfants, même parfois, ne savent plus parler la langue vernaculaire. Ils ne savent plus comment mener une conversation en nos langues maternelles, en utilisant nos langues maternelles, mais pas juste nos petits-enfants. Donc, ce récit est en fait un exemple. Dans ce récit, on voit des personnages qui tentent, je ne veux pas expolier, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui oublient certaines choses. Et ça m'a rappelé en fait notre Afrique, parce qu'on a tendance à oublier nos valeurs. On a tendance à perdre des choses en cours de route. Et parfois même sous l'influence même des considérations extérieures. Donc en fait, j'aimerais vraiment, je n'ai pas, la seule question que j'aurais pour l'auteur, c'est de lui demander si vraiment il y a d'autres projets en cours comme cela, ou bien s'il est venu juste nous mettre de l'eau à la bouche en fait, et après disparaître.
Merci. Je crois que c'est bon. Voilà, en ce qui concerne les questions, on va procéder à cette dernière série de réponses. Et puis par la suite, acheminer avec Crescendo avec notre programme. Amit.
Je vais d'abord répondre à la question du personnage principal du H. Sada. Arrêtez, me pose la question ici de savoir si c'est juste le flash ou bien il y a d'autres projets en cours. Déjà, de formation, je suis comptable. Ça veut dire que je ne passe pas mon temps à réaliser des ouvrages. C'est juste ce qu'on appellerait, je crois bien. Oui. Donc ça veut dire que il y a même 6 titres d'ouvrages qui se bousculent dans mon esprit. Mais c'est juste que. En comptabilité, on utilise souvent un terme, on dit souvent ce pourquoi l'activité est créée et une activité hors activité ordinaire. Donc, ça, c'est une activité hors activité ordinaire. En réalité, je suis programmé pour être comptable. Je ne suis pas programmé pour être écrivain. Ça veut dire que quoi? Mon activité ordinaire, ça, c'est un terme comptable. Mon activité ordinaire ici, c'est comptabilité. Analyse financière, tout ce qui va avec là, les chiffres en fait. Ça veut dire que ça, c'est juste une activité hors activité ordinaire. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un délai de publication, comment on va dire, récurrent B. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs titres pour l'ouvrage, mais sauf que, est-ce que la fréquence va donc satisfaire vos attentes? Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas juste un flash. Mais si vous achetez beaucoup, ça va.
Ça c'est clair.
Bon, écoutez, la question que vous avez posée, c'est une question d'aujourd'hui. Vous allez voir que dans les années 60 ou 500, vous allez vous rendre compte que les gens comme Descartes, il pouvait être un grand mathématicien, un grand physicien, mais en philosophie, il était très calé. Vous allez voir des gens comme les Ronsard, il est un très grand littéraire, mais en musique, il est très calé, vous voyez. C'est avec le temps, avec l'éducation d'aujourd'hui, qu'on a voulu classifier les enfants en disant que bon, toi tu connais les maths, tu n'as rien à faire avec la littérature. C'est faux. C'est très faux. La preuve en est, la personne qui m'a donné le plus le goût de lecture, c'est mon petit frère qui a fait physique. Ah oui. Je faisais littérature, mais il faisait physique, il lisait les livres plus que moi. Et il me disait, oh, je suis venu aujourd'hui, je suis passé à l'époque. Et quand j'entrais dans sa chambre, il y avait sa pile à lit qui était comme ça. Mais il faisait physique. Mais les livres comme Madame de Lafayette, tout ça, c'est par lui que j'ai découvert les Ronsard, les autres. Ils lisaient plus que moi qui étais littéraire. Donc, c'est pour encourager les parents de classifier pas les enfants, parce que parfois en lui, il y a un génie, ou bien il y a, je veux dire quoi, son étoile peut briller dans un autre domaine. Moi, j'ai souvent l'habitude, excusez-moi un peu d'embrayer dans le domaine du cinéma, j'ai souvent l'habitude de demander aux gens quand vient dans le milieu où je parle pour le cinéma, je demande à tout le monde qui connaît Mitumba ici. On lève la main, je dis, vous le connaissez, pourquoi on dit que c'est un réalisateur, c'est un cinéaste? Je dis que ses parents ou bien la société l'a programmé pour être enseignant. Est-ce que vous connaissez qu'il est même enseignant? Non. Mais les plus gros contrats de sa vie, sa renommée, sa notoriété, son argent, tout, c'est dans le cinéma. Et il n'a jamais été formé dans le cinéma, il était enseignant. Et c'est pour ça que quand vous avez les enfants à la maison qui peut-être sont techniciens, mais qui ont des tendances dans le domaine de l'art. N'hésite pas que non, toi tu es comptable, tu n'as rien à faire avec les lettres. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La preuve en est aux éditions La Voix du Livre, la majorité des essais, c'est-à-dire les livres qui apportent vraiment des solutions, ce sont des livres écrits par des chercheurs scientifiques.
Ce sont des scientifiques, ce n'est pas les littéraires. Très souvent, les littéraires nous donnent des trucs, ce sont des histoires, des contes, on n'est pas trop dedans. Mais quand les livres qui vont le donner apportent des solutions directes, on a constaté que c'était en majorité les scientifiques. Mais combien d'enfants grandissant ont entendu dire, les, voilà à quoi le prix des mots, entendu dire, oh laisse ça, tu fais quoi avec les livres, tu es comptable, tu seras plutôt médecin, tu n'as pas besoin de lire un livre, regarde tes livres qui parlent seulement de la médecine. Voyez un peu, dans autant de choses. Le côté, le fait que l'enfant soit, disons peut-être comptable, ou bien même banquier, ou bien même architecte, ou bien même ingénieur, je ne sais pas, télécom, ça n'empêche pas qu'il soit, qu'il y ait en lui un génie en matière de musique, hein, ou bien un instrumentaliste, un fin instrumentaliste. J'ai eu un enseignant qui était un enseignant de droit, mais qui, en instrument, quand il fallait jouer au violon, on ne blaguait pas. Mais il nous faisait comprendre que pendant tout, depuis tout petit, il avait toujours voulu jouer au violon, mais ses parents disaient non, on veut que tu deviennes diplomate, fais droit, arrête tous ces trucs. Mais c'est quand il a eu une bourse en France qu'il allait, comme les Occidentaux, quand même, compris un peu ça, plus que les Africains, il allait, il a développé ce côté-là de lui. Et il était plus connu et il s'exerçait plus, il excellait plus dans ce domaine. Donc le fait qu'il soit comptable, ça n'empêche pas qu'il soit auteur. Alors, la dernière question était de savoir où trouver le livre. Le livre, très bientôt, disons dans moins d'une semaine, sera disponible à la librairie des peuples noirs, face SNI. Vous voyez, non, face SNI. Oui. Donc, le livre sera disponible à la librairie des peuples noirs, face SNI, pour ce qui est de Yaoundé. Et progressivement, nous allons aller dans d'autres villes, Douala, la FNAC, parce que ce sont nos différents partenaires en matière de diffusion des livres. Donc, vous pourrez trouver les exemplaires du livre là-bas. Alors, quelle est la différence entre acheter ici et acheter de l'autre côté? Parce qu'il faut bien se poser la question. Ici, quand vous allez acheter, vous aurez l'autographe de l'auteur, comme il peut vous montrer. Vous aurez l'autographe de l'auteur en direct, donc...
Là, c'est déjà une preuve.
Voilà, qu'il était sur le livre.
Voilà, avec le journaliste, c'est une preuve.
Alors, je crois qu'on va finir avec l'autographe.